Alors, Marie-France, je reçois Pierre Gens, le président de Mesures Médias. Dans une heure, nous sommes à 2 semaines d'élection, ça va s'accélérer. Et lui est d'avis que ça a été une semaine très difficile pour M. Legault. Ce sera le premier chef dont il va nous parler dans une heure.
Oui, ben une semaine où ça c'était quand même pas trop mal jusqu'au débat et à ce premier débat francophone qu'on a tous regardé. Il s'en est assez bien sorti et avec le sujet qu'il a amené lui-même, l'immigration. Mais c'est vraiment en fin de semaine et par 2 fois, samedi et dimanche, qu'il s'est fait questionner par des journalistes sur le processus d'immigration. Et là, il semblait comme un peu mêlé en ce qui est de la compétence québécoise, c'est-à-dire le nombre, la façon d'accueillir les immigrants et la compétence fédérale, les ententes, les expulsions possibles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sont venus à sa rescousse François Bonnardel et Marguerite Blais parce qu'il y a des conséquences à ça, Paul. Et on l'a vu, Main Street qui sonde vraiment, qui fait une espèce de tracking, comme ils disent, des intentions de vote des Québécois, l'a montré, on le voit dès ce matin, il a baissé de 4 points, la CAQ a baissé de 4 points, alors qu'après le débat, ça allait quand même bien. La CAQ était en zone majoritaire et là, elle vient de baisser en zone minoritaire, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas nécessairement la majorité si le vote avait lieu aujourd'hui. Et l'image de François Legault, la lecture que les électeurs se font de la situation, c'est que M. Legault était au fond mal préparé sur un sujet sur lequel il devrait être, comprends-tu, blindé. Et c'est comme un peu inquiétant comme premier ministre. Ça commence à altérer son capital. C'est pour ça que le débat qui s'en vient là, dans quelques minutes, le débat en anglais va être vraiment très important pour lui parce qu'il va devoir remettre l'attention sur Philippe Couillard, sur son bilan et incarner l'idée qu'il proposait en tout début de campagne. Je suis le changement parce qu'en ce moment, sur l'immigration, ouf, le week-end a vraiment été dur.
Mais c'est annonciateur. Il reste 2 semaines. Oui. La semaine prochaine, nous serons dans le dernier droit. Quand on arrive au vote par anticipation, c'est le dernier droit.
Exactement.
La dernière ligne droite.
Et
Marie-France, qu'on le veuille ou non, c'est ça la politique. On va lui lancer des pneus de banane pendant toute la semaine.
Absolument. Ah, c'est clair. Là, il y a 2 débats, celui en anglais et celui de TVA jeudi. Et on va vraiment l'attendre là-dessus. Et ça donne l'impression que le sujet de l'immigration est botché, comme si c'était dit l'immigration va être un sujet payant auprès d'un certain pourcentage de francophones sans s'assurer qu'ils en connaissent toutes les implications. Et c'est dommage, je te dirais, Paul, pour le sujet de l'immigration lui-même qui est désormais radioactif.
Absolument, c'est bon terme, ça.
Vraiment, pour cause de négligence, je le répète, de botchage. Il n'y a pas de mot plus québécois pour exprimer l'affaire.
Personne ne veut toucher à ça. Tu as l'impression tout le temps que tu vas glisser et on va te le reprocher le lendemain.
Exactement. Et ce thème-là, celui de l'immigration, qui est pourtant important, on devrait, comme société, y faire face posément, de manière calme, informée, bienveillante, non partisane. On devrait pouvoir en parler, chiffrer l'immigration, on devrait parler de bonne intégration, des conditions d'une bonne intégration. C'est un débat qui a cours dans toutes les sociétés occidentales et au fil des ans au Québec, il est devenu diabolisé, il est devenu clivant, instrumentalisé par le PQ, par la CAQ maintenant, par des groupes de la gauche diversitaire. On y a mis beaucoup d'idéologie et ce qui arrive, c'est que ce dossier-là, qui est vraiment entaché par des maladresses, par de l'amateurisme et par de l'idéologie, est devenu une patate chaude, est devenu un repoussoir. Or, à moyen terme, ça va nous revenir dans la face comme un boomerang, c'est sûr.
Mais t'as pas l'impression qu'on a approché ce difficile dialogue lorsqu'on avait créé Bouchard-Taylor?
Oui.
Ça devait être ça. Bouchard-Taylor, à l'origine, devait être l'endroit où le public, les citoyens de toute origine, allaient s'exprimer.
Et tout le monde était prêt. On le sentait avec les conclusions de Bouchard-Taylor qui n'étaient pas la panacée universelle. On s'entend, c'était un compromis de toutes parts. Mais on sentait que la société québécoise était prête à le faire, ce compromis-là. Et les gouvernements ont tardé, ont vraiment laissé pourrir l'affaire. Et on a instrumentalisé la situation. Et on en arrive avec ça. Et le PQ a fait sa part avec la charte des des valeurs qui a vraiment divisé beaucoup la population. Là, la CAQ revient en jouant de manière... C'est explosif, ce sujet-là. Il faut vraiment faire très, très, très attention quand on en parle.
Et c'est, ce qui est malheureux, c'est que ça va devenir une arme politique dans les prochaines semaines.
Exactement.
Une arme politique et vraiment dans le but d'attaquer et faire des gains politiques et pas nécessairement d'avoir un dialogue constructif.
Oui, alors que et... je le répète, il faut que ce soit constructif.
Oui,
parce
on n'a pas
est...
le choix.
On
ce sont des êtres humains derrière ça.
Exactement. Et, on est... et la diversité est une chose formidable et on a beaucoup à apprendre de l'immigration. Et l'immigration a beaucoup à apprendre de la société d'accueil. Il y a vraiment... Et la plupart des gens sont de bonne volonté et c'est vraiment dommage qu'on l'instrumentalise de cette manière-là.
Alors, dans la presse ce matin, j'ai lu ça très tôt, les élus municipaux, en particulier à travers le Canada, s'inquiètent beaucoup des conditions difficiles des piétons dans leur ville. Et c'est vrai que le nombre d'accidents mortels impliquant des piétons est en hausse.
Est en hausse. En légère hausse, c'est la Société d'assurance automobile du Québec qui l'a recensé. Et de manière frappante, juste à Montréal, la semaine dernière, en 3 jours, 2 morts, 2 blessés, dont cette dame de 87 ans à Ville-Saint-Laurent. Et là, les autorités se demandent pourquoi. Il y a différentes hypothèses, je te les énumère. Il y a le volume de circulation, le nombre de voitures qui est à la hausse, le nombre et la densité de piétons, le non-respect de leur part des règles de circulation, l'usage du téléphone portable qui nous rend très distraits comme piétons et le vieillissement de la population. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus lents, j'imagine. Et je pourrais rajouter, je trouve ça spécial parce que c'est vraiment des, sauf l'augmentation du volume de circulation de voitures, c'est toutes des causes qui mettent en scène le piéton comme s'il était uniquement responsable. On pourrait rajouter les travaux. Est-ce que les travaux pourraient rendre fous les automobilistes et les piétons et les cyclistes? Moi, je suis sûre que dans la tension qu'on sent vraiment en ce moment, en ville, en banlieue, les travaux ils sont pour quelque chose, ces travaux qui n'en finissent plus, qui sont mal balisés, on en a déjà parlé. Et si les automobilistes avaient aussi besoin d'un rafraîchissement de cours de conduite, on pourrait mettre cet élément-là. Le portable au volant, on continue à le voir, c'est un élément aussi. C'est pas juste les piétons qui sont distraits. Et je trouve que la solution... de mettre tout ça sur le dos du piéton, bien sûr, on a à faire notre part comme piéton, à être vigilant, la ville est dangereuse, mais je pense que la solution risque d'être collective, elle doit parler d'infrastructures, bien sûr des campagnes de sensibilisation, mais ce n'est pas suffisant, et le vieillissement de la population, il est inéluctable, il va aller croissant, donc on peut pas juste dire que ben il faut qu'ils soient plus prudents parce qu'ils sont plus vieux, il va falloir revoir les infrastructures. Des feux de circulation adaptés, on le fait maintenant pour les vélos. Il y a moyen d'avoir des feux de circulation synchronisés ou tenir compte du fait que de traverser une voie double, comme il y a sur Robert Bourassa, comme il y a sur Henri Bourassa, mais là, de mettre des infrastructures, peut-être un banc au milieu pour que les personnes âgées puissent s'arrêter parce qu'elles ne peuvent pas tout traverser
exact.
D'un coup.
Dans certaines villes, j'ai vu ça en plein centre, sur le terre-plein, au milieu, un petit banc.
Mais à New York, ça existe.
Ben oui.
Absolument, ça existe. La vitesse des véhicules, on échangeait par courriel cet après-midi, Paul, puis je pense qu'on est les deux seuls adeptes dans le Grand Montréal.
Mais j'en reviens pas.
La circulation à 30 km/h dans beaucoup, beaucoup de zones où il y a des écoles, mais dans des zones résidentielles.
Mais est-ce que tu te fais klaxonner ou, disons, peut-être pas klaxonner?
Je me fais dépasser, je me fais couper.
Ah, moi, écoute.
C'est complètement fou, mais il y a des raisons à ça, 30 km. Puis 30 km, quand même, en ville, en ce moment, avec la congestion, je le constate quand je suis au centre-ville, des fois tu avances en tout, ta moyenne, c'est 10 km/h tellement il y a des bouchons. Fait que franchement, 30 km/h, tu as quasiment le vent dans les cheveux. Là.
Ouais,
c'est
mais
la
ça,
grosse
okay.
vitesse.
Mais ça, c'est pour la ville.
Oui.
Je parle du centre-ville de Montréal, grande ville. Le problème, c'est que personne ne respecte ça.
Personne ne respecte ça.
Et malheureusement, dans certaines zones où on met ça à 30 km/h, je ne parle pas devant une école, un hôpital ou enfin là où il y a des travaux, ça devient tentant de faire ce qu'on appelle une trappe à contravention.
Oui, il y a ça aussi. On le voit, absolument, on le voit. Il va falloir que ce soit autre chose que ça.
Oui, il faut que ça
soit pour le civisme et la sécurité. On peut penser aux camions aussi. Il y a beaucoup d'accidents qui mettent en scène des camions avec des piétons, avec des vélos aussi. Est-ce que tous les camions et tous les types de camions sont nécessaires à toutes les heures dans tous les types de rues en ville? On peut se poser la question. Beaucoup de villes nord-américaines, européennes ont résolu la question. Tout n'est pas permis tout le temps et n'importe où. Il y a vraiment, il y a beaucoup à faire, je trouve, avant d'accuser uniquement les piétons d'être distraits et dangereux. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup à faire. Je remarque, entre autres, les passages piétons qui se sont multipliés avec 100 $ d'infraction d'amende si vous ne respectez pas le passage piéton. Les automobilistes passent par-dessus ça, te klaxonnent si t'es un piéton qui ose s'engager là-dedans.
Si t'as le malheur d'être un piéton là, à Montréal et de t'engager au moment où il ne reste plus qu'une seconde ou mettons deux secondes sur ton temps pour traverser, c'est sûr que il y en a qui vont presque te rouler dessus.
Et ça nous concerne tous parce qu'on est tous piétons à un moment donné. À un moment donné. On n'est pas tous cyclistes, mais on est tous piétons à un moment donné. Alors, il faut vraiment, je pense, que les autorités qui vont réfléchir là-dessus pensent infrastructure, pensent solution collective, sensibilisation collective, mais c'est pas vrai que c'est vraiment chacun individuellement. Oui, tout le monde a sa part à faire, mais je pense que ça prend une solution plus globale pour vraiment arrêter ce triste bilan de morts. Mais on parle très peu des blessés, mais il y en a. Et c'est pas normal qu'il y en ait à ce point-là.
C'est en hausse, en plus. Oui, en tout cas, on est content de savoir que tu respectes les zones de 30 km/h. C'est pas très vite.
J'ai vraiment l'impression d'être une niaiseuse,
bravo,
des fois.
Bravo.
Mais oui, je
mais
le
faut,
fais.
Il faut carrément lever le pied. Moi, quand j'arrive dans zone de 30 km/h, j'étais habitué de rouler à 100 km/h sur l'autoroute. Je sors par la bretelle, j'arrive sur la zone de 30 km/h. Et tu comprends.
Ah, c'est pas vite. Hein?
Écoute, tu retires ton pied de l'accélérateur et l'auto va encore trop vite.
Exactement.
C'est...
Tu te fais dépasser par des cyclistes. Non, c'est vrai.
Est-ce que tu savais que j'avais dit en ondes, et c'est vrai, qu'au moment d'un 100 mètres olympique, ou peu importe, un sprinter comme Bruny Surin atteignait une vitesse de pointe à un moment donné qui frôlait les 38
km/h
et qu'il aurait eu une contravention dans mon secteur.
Exactement. Il serait tombé dans une trappe à ticket.
À demain.
À demain, Paul.